Voix enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantée, l'émission qui propose de découvrir le portrait radio d'un ou une invitée pendant une quinzaine de minutes à travers ses goûts artistiques, un partage de textes personnels et une bribe de phrases entendues dans l'espace public. Pour clore l'année 2024, la voix enchantée de décembre, c'est Pauline. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tes passions, ton travail ?
J'ai 29 ans, bientôt 30 ans. J'ai grandi en région parisienne, avec un petit détour à Nantes. Et puis ensuite, je suis revenue à Paris et je travaille dans un théâtre depuis 5 ou 6 ans maintenant, en communication. J'ai pratiqué la danse très longtemps, danse classique. Je lis beaucoup, puis je vais beaucoup voir de spectacles, surtout ces dernières années. Et je voyage pas mal aussi, j'aime bien partir seule en fait. Voyager seule sur des longues durées, et pour l'instant je suis pas partie si loin que ça, parce qu'il y a aussi l'envie de voyager principalement en train. Mais ça m'a beaucoup nourrie ces dernières années aussi, ces voyages solo.
Danse, théâtre, lecture, voyage. On y va avec ton choix d'artiste. L'émission, elle s'ouvre par le choix d'un artiste qui, toi, te touche particulièrement, pour multiples raisons. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui c'est et quel style d'art tu as choisi, en fait ?
J'ai choisi de parler de peinture et d'un peintre qui s'appelle Anselm Kiefer. Je l'ai découvert un peu par hasard en voyage scolaire à Bilbao il y a peut-être, je ne sais plus quand c'était, mais 8-10 ans. Tombé sur un de ses tableaux qui s'appelle, je crois, Les grands ordres de la nuit, dans lequel on voit un homme allongé sur une plage sous le ciel étoilé. En fait, je n'ai jamais ressenti une émotion aussi forte devant un tableau que devant ce tableau-là. J'en ai pleuré parce que ça m'a évoqué une image un peu différente de celle qu'il a voulu représenter, je crois, parce que bon, c'est pas très joyeux, mais j'ai vu dans ce tableau un cadavre allongé sur une plage sous le ciel étoilé qui prend les trois quarts du tableau, qui est extrêmement présent. La particularité du travail d'Anselm Kiefer, c'est que ces tableaux ont beaucoup de relief en fait. Enfin, il travaille pas seulement avec de la peinture, justement, il plaque aussi beaucoup de matière sur ses tableaux. Je pense que c'est aussi ce qui a fait que ce tableau-là m'a autant touchée, parce que le relief m'a saisie, quoi, en quelque sorte.
Est-ce que tu te sentais un peu attirée vers le tableau ?
Oui, parce que c'était dans une salle. C'était dans une salle dans laquelle il y avait, il me semble, que des tableaux de Kiefer. Ce tableau m'a complètement attrapée, mais parce que j'étais en train de traverser un deuil, ça m'a tout de suite parlé à un niveau extrêmement profond et émouvant, et j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ce tableau. Anselm Kiefer, je l'ai recroisé par hasard justement sur mon premier voyage seul. J'étais partie un mois en interrail, en train en Europe, et la dernière étape c'était à Venise, où j'avais jamais été. Et en arrivant à Venise, c'était sur un été pendant lequel il y avait la Biennale d'art contemporain. J'ai vu des affiches partout qui annonçaient Anselm Kiefer au Palais des Doges. Et j'y suis allée et à nouveau j'ai été saisie parce qu'il avait complètement investi une salle du Palais des Doges qui sont des salles très chargées. Mais lui avait complètement recouvert les murs de ses créations, de ses tableaux. Enfin, c'est plus que des tableaux, c'est de l'art plastique aussi. Et à nouveau, enfin vraiment, ce travail de la matière par-dessus la peinture et le relief que ça crée, ça m'émeut beaucoup et ça me touche beaucoup.
Et Anselm Kiefer, en fait, il travaille beaucoup les traumatismes collectifs de l'histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Donc c'est aussi des émotions qu'on n'a pas de manière personnelle, qui sont collectives, mais qui vont réveiller des choses personnelles en nous. Mmh. On va l'écouter nous parler de son rapport à l'histoire en tant qu'artiste. C'était en 2021, à l'occasion de son exposition au Grand Palais Éphémère à Paris.
Je pense que l'histoire en soi, en tant que telle, n'existe pas.
Elle est réécrite par chaque époque, par chaque autorité au pouvoir. Moi, en tant qu'artiste, je considère l'histoire comme de l'argile. Et je la modèle pour en faire une histoire. C'est bien sûr l'avantage en France. Ils ont laissé tels quels les bunkers sur la ligne de défense en Normandie, tandis que les Allemands les ont tous démantelés. Ce que je trouve vraiment dommage, car on parle de l'histoire. Il n'y a jamais eu d'année zéro en Allemagne. C'est un mythe. Cette histoire de faire table rase du passé, ça n'a pas eu lieu. Tout est encore bien présent. Et quand on cherche à labourer les choses qui sont encore présentes, quand on veut les enfouir dans le sol, on commet une erreur, car ça reste là. La boue, d'où tout a surgi, est encore là. On le voit bien aujourd'hui. Partout, cela recommence à surgir de la boue.
On l'entend, Pauline, dans cette archive, en fait, c'est un artiste penseur. C'est-à-dire qu'il parle d'argile et d'histoire dans la même phrase. Est-ce que ça aussi, ça te touche ?
Je trouve que la manière dont il parle de l'histoire et de notre histoire collective, ça se ressent de manière très profonde et organique dans ce qu'il crée. Et je trouve ça incroyablement fort et efficace. Ouais.
Et ce qu'il dit de quand on enfouit les choses dans la boue, qu'elles finissent par ressurgir, il parle des traumatismes collectifs, mais en fait, même à échelle personnelle, on pourrait se dire la même chose. Donc, merci beaucoup Anselm Kiefer, inspirant. On va continuer en musique. Le deuxième chapitre qu'on ouvre ensemble, Pauline, dans cette émission, c'est ton coup de cœur musical. Est-ce qu'avant qu'on écoute le morceau que tu as choisi, tu peux nous annoncer le nom de l'artiste et le titre du morceau?
Barbara dit quand reviendras-tu.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Alors Pauline, pourquoi ce morceau ?
Je dirais que Barbara fait partie des chanteurs et chanteuses qui m'ont accompagnée pendant de longues années. Ses morceaux, sa voix et ses armes m'enveloppent toujours beaucoup quand je les écoute. Ce sentiment-là d'être enveloppée par la musique me réconforte beaucoup, je crois, même si les paroles sont pas très joyeuses.
Ouais, il y a un côté mélancolique, mais en même temps, c'est tellement une belle balade qu'on a envie de la chanter déjà et on a envie de sourire peut-être plus que de pleurer. Enfin, même si on pleure avec un sourire, je sais pas comment dire.
Oui, bah c'est ça, c'est mélancolique du coup. Et je pense que j'ai écouté ce morceau dans plein d'états différents et à chaque fois, il vient me toucher et m'envelopper dans l'endroit dans lequel je suis et c'est, ouais, encore une fois, très réconfortant de retrouver ça, quoi.
C'est assez beau d'avoir comme de l'affection pour une chanson.
J'ai hésité aussi à te proposer de passer un morceau qui n'a rien à voir, un morceau du chanteur Mika, qui s'appelle Happy Ending, qui est de son premier album. Et en fait, c'est les mêmes caractéristiques que j'associe à cette chanson et à Dis quand reviendras-tu de Barbara et à d'autres qui m'accompagnent. C'est ce caractère enveloppant et puis épais, quoi, de ces morceaux que je peux écouter sans m'enlacer et qui me parlent beaucoup aussi dans leurs textes.
Là, la question de l'adresse dans « Dis quand reviendras-tu », elle est puissante parce que ce « tu », en fait, bon, ben, c'est son amour. Mais au-delà du sien, c'est un peu celui de tout le monde, quoi, qui l'écoute. Il y a une dimension universelle. Je me demande si, selon les périodes peut-être dans lesquelles tu les écoutes, est-ce que tu vas mettre comme ça des personnes derrière ce qu'elles racontent ou est-ce que c'est une adresse à l'amour avec un grand A, peut-être ?
Bah, les deux à la fois, mais enfin, les deux en même temps, en fait. C'est effectivement un morceau que j'ai beaucoup écouté à un moment où je traversais une peine de cœur terrible. Et pour moi, quand je l'écoutais, la chanson, elle était adressée à quelqu'un en particulier, en même temps à l'amour entier, quoi, parce que c'était le même objet, finalement. J'ai longtemps pensé que j'arriverais pas. Et il y a eu beaucoup de morceaux comme ça qui m'ont accompagnée à travers cette peine-là, dont je pensais que j'arriverais jamais à les dissocier de cette peine-là. Et finalement, je me rends compte que je trouve une autre forme de plaisir et de réconfort aujourd'hui à écouter ce morceau à un moment où je me suis un peu, enfin, où j'ai un peu avancé, quoi.
Comme si le sourire prévalait sur les pleurs.
Ça dépend des jours, mais. Ouais.
On continue avec ton partage de texte. On arrive, Pauline, au cœur de l'émission, qui est celui du partage d'un texte que toi, tu as écrit. Alors, je sais que ce n'est pas facile parce que soit il faut se replonger dans qui on était quand on n'était pas à l'instant présent de Pauline dans le studio aujourd'hui à Radio Campus Paris, soit écrire un texte comme ça pour l'émission qui n'est pas non plus facile. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient ce texte, quand est-ce que tu l'as écrit ?
Ce que je n'ai pas dit quand je me suis présentée, et pourtant je trouve que ça aurait pu faire sens aussi, c'est que j'ai longtemps aimé écrire. Je lisais énormément et j'écrivais énormément aussi. J'écrivais beaucoup à partir de ce que je lisais. J'écrivais avec d'autres en ligne. Je créais des histoires, je créais des personnages et j'écrivais plein de. J'ai créé même des forums d'écriture avec des amis que j'avais rencontrés en ligne, etc. Enfin, c'était vraiment une grosse partie de mon adolescence. Pour choisir le texte que j'allais lire ce soir, justement, je me suis replongée un peu dans tous ces écrits-là. Et je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas écrit, enfin que j'ai un peu perdu cette habitude-là, que c'est pas évident de relire effectivement quelque chose que t'as écrit il y a plus de 10 ans, parce que c'est le cas de ce que je vais lire là. Enfin, c'est un très court texte, c'est le début de quelque chose que j'ai jamais terminé, enfin avancé. J'y vais. Les projecteurs s'éteignent et ton sourire s'évanouit. Applaudissements aveugles. Mains sur les hanches, tu retiens ton souffle et tu tiens la pose. 1. Dans le noir qui s'installe, ta silhouette pailletée se détache du mur sombre contre lequel tu es appuyé. Si tu ne les discernes plus, eux ne t'ont pas quitté des yeux, et dans l'obscurité bruyante, tu sens des regards accrochés à tes formes. 2. Sur tes lèvres, tu dessines un sourire. Tu relèves le menton. 3. Un bruit mécanique annonce le retour de la lumière et la voilà déjà, soudaine, brutale, agressant tes prunelles. Aveuglé, tu quittes la salle en fumée à la suite du reste des filles. De maigres applaudissements et des prunelles lubriques vous accompagnent encore jusqu'au vestiaire, et bientôt tu ne perçois plus de la salle que le brouhaha des verres qui s'entrechoquent et de rires qui se mêlent. Ils vous ont déjà oublié. La porte des loges se ferme et aussitôt les dos s'affaissent et les langues se délient. Comme chaque soir, tu t'extirpes de la masse désordonnée et bourdonnante et tu te plantes devant le miroir. Ta soirée n'est pas terminée. Les clients sont toujours là. Tu dois retourner leur sourire et leur plaire. C'est la seule manière de t'en sortir. T'oublier pour les séduire. Tu réajustes ta perruque et vends ton visage rosi par l'effort et appliques une nouvelle couche de rouge sur tes lèvres. Tu n'es pas sûr de reconnaître celle dont tu inspectes rapidement le corps dans le miroir. C'est peut-être mieux ainsi.
Merci beaucoup Pauline pour ton partage de texte. On était vraiment dans l'ambiance, donc merci beaucoup. On va passer tout de suite à ton œuvre phare. C'est parmi plein de formes d'art possibles. Une œuvre qui, toi, particulièrement te marque, te plaît, te touche. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Un roman, L'art de la joie de Goliarda Sapienza. C'est un texte que j'ai découvert il y a 4 ou 5 ans et qui m'a complètement bouleversée. En fait, j'entendais parler de Goliarda Sapienza depuis un an ou deux, je crois, dans des émissions de radio. J'avais entendu des gens dont je partage à peu près les goûts en parler. Et ça m'intriguait beaucoup, et ce titre m'intriguait beaucoup également, L'art de la joie. J'ai lu à peu près à la même période L'art de perdre d'Alice Zeniter aussi. Il y avait comme une sorte de
continuité.
Et je suis tombée sur le livre dans une librairie, peut-être juste avant le confinement de 2020. Et je me suis retrouvée à le lire, du coup, sur une période où j'ai passé beaucoup de temps chez moi. Et j'ai été complètement saisie par la puissance de l'histoire, de cette histoire. Et la force et l'épaisseur, encore une fois. Enfin, désolée, j'utilise un peu toujours les mêmes termes, mais c'est vrai que c'est des choses qui me... Enfin, c'est des caractéristiques qui me touchent particulièrement. L'épaisseur du personnage principal de cette histoire. Parce que c'est un livre dans lequel on suit... quasiment de sa naissance à sa mort, un personnage féminin qui s'appelle Modesta et qui naît en Sicile au début du XXe siècle et qui est complètement hors norme et difficile à qualifier, donc qui est difficile à apprécier même au début du roman parce qu'elle est assez... Elle se montre très méchante, voire violente, voire... en fait, elle fait du mal... En tout cas, elle cherche à faire tout ce qu'elle peut pour survivre et pour tirer son parti de toutes les situations dans lesquelles elle se trouve, puisqu'elle grandit dans une famille complètement instable. Les premières pages s'ouvrent sur un récit assez violent d'une agression sur elle de la part de son beau-père. Donc c'est tout de suite très, très violent comme histoire.
Il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs n'arrivent pas à passer ce cap des premières pages tellement il y a de la violence. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent « ça a changé ma vie ». Donc en fait, lisez ce livre.
Bah, ce n'est pas un livre facile à absorber, en fait, parce que déjà, il est très dense. C'est l'histoire d'une vie entière. Ça passe par beaucoup d'étapes très différentes. Le style d'écriture varie beaucoup aussi d'un moment à l'autre du récit. Il y a même des passages qui sont écrits comme un texte de théâtre, c'est-à-dire avec les noms des interlocuteurs en début de ligne. Je me demande même s'il n'y a pas des didascalies sur ces passages-là. La puissance de vie de ce personnage, moi, m'a fascinée et m'a absorbée. Et ça raconte aussi, toute la première moitié de siècle du XXe siècle en Italie, avec la montée du fascisme. C'est écrit par une autrice qui a grandi dans une famille anarchiste. Donc tout ça est traité de manière très frontale. Et en même temps, ce personnage de Modesta vit aussi de manière complètement libre sa vie amoureuse, sexuelle, affective de manière générale. Et... tout ça mélangé, cette liberté qu'elle a à tous les endroits de sa vie, dans la manière dont elle construit sa vie, dans la manière dont elle construit ses relations affectives et amoureuses, etc., dans la manière dont elle s'investit politiquement. Ça m'a enthousiasmée profondément.
Sur la vie, sur comment voir la vie.
Ouais, cette liberté totale. En fait, c'est assez loin de moi, finalement. Enfin, loin aussi de la manière dont j'avance dans la vie, je trouve. Enfin, c'est pas si évident que ça, de faire preuve d'autant de liberté et de force. Et ça m'a impressionnée, ça m'a beaucoup nourrie.
On peut s'inspirer aussi des personnes ou des personnages qui sont très différents de nous. Même si on n'applique pas ce qu'eux y font, en profondeur, ça va changer des choses. Avant qu'on passe à la toute dernière étape de l'émission, la bribe de phrase, Je voulais juste lire un bref passage de la quatrième de couverture. Comment pouvais-je le savoir si la vie ne me le disait pas? Comment pouvais-je savoir que le bonheur le plus grand était caché dans les années apparemment les plus sombres de mon existence? S'abandonner à la vie sans peur, toujours. Et maintenant, encore, entre sifflement de train et porte claquée, la vie m'appelle et je dois y aller. Pauline, l'émission, elle se termine par une bribe de phrase que tu as entendue dans l'espace public, dans ton entourage. C'est un petit bout comme ça de conversation attrapée au vol qui t'aurait marqué pour une raison ou pour une autre. Est-ce que tu peux nous révéler cette phrase ?
J'ai si peur de parler que c'est difficile pour moi de savoir ce que je pense vraiment. C'est
un extrait d'un texte que j'ai lu il y a un an ou deux qui s'appelle Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorrent et qui exprime la manière dont c'est difficile d'apprendre à penser par soi-même et d'apprendre à dire ce qu'on pense aussi, à force d'intérioriser aussi ses pensées et de garder les choses pour soi, ce que j'ai moi-même tendance à faire de manière quotidienne. C'est difficile et je m'en rends compte aussi aujourd'hui quand j'essaye de me remettre à écrire, de poser et de formuler clairement une pensée, de se sentir à l'origine de cette pensée-là complètement. Quoi.
Oui, mais il n'empêche que c'est toi qui l'as écrit, Pauline, et qu'on ne pense jamais tout seul. Ça, c'est une bribe de phrase que moi, j'ai entendue. On pense avec d'autres, les morts et les vivants. Mmh. Merci beaucoup d'avoir été la voix enchantée du mois de décembre et d'avoir clos l'année 2024, radiophoniquement.
Merci pour l'invitation.
À la réalisation, c'était Rosalie Berne, que je remercie également. On se retrouve le mardi 14 janvier à 18h sur les ondes de Radio Campus Paris et quand vous voulez en podcast via le site internet de la radio et Spotify. Belle fête et merci beaucoup sur le 93.9.